Et quand la voiture de Madame Verdurin fut partie et que celle de Swann s'avança, son cocher le regardant lui demanda s'il n'était pas malade ou s'il n'était pas arrivé de malheur. Swann le renvoya. Il voulait marcher, et ce fut à pied, par le bois, qu'il rentra. Il parlait seul, à haute voix, et sur le même ton un peu factice qu'il avait pris jusqu'ici quand il détaillait les charmes du petit noyau et exaltait la magnanimité des Verdurin. Mais, de même que les propos, les sourires, les baisers d'Odette lui devenaient aussi odieux qu'il les avait trouvés doux, s'il s'était adressé à d'autres que lui, de même, le salon des Verdurin, qui tout à l'heure encore lui semblait amusant, respirant un goût vrai pour l'art et même une sorte de noblesse morale, maintenant que c'était un autre que lui qu'Odette allait y rencontrer, y aimer librement, lui exhiber ses ridicules, sa sottise, son ignominie. Il se représentait avec dégoût la soirée du lendemain à Chatou. D'abord, cette idée d'aller à Chatou, comme des merciers qui viennent de fermer leur boutique. Vraiment, ces gens sont sublimes de bourgeoisisme. Ils ne doivent pas exister réellement. Ils doivent sortir du théâtre de la biche. Il y aurait là les Cottard, peut-être Brichot. Est-ce assez grotesque cette vie de petites gens qui vivent les uns sur les autres, qui se croiraient perdus, ma parole, s'ils ne se retrouvaient pas tous demain à Chatou? Hélas, il y aurait aussi le peintre. Le peintre qui aimait à faire des mariages, qui inviterait Forcheville à venir avec Odette à son atelier. Il voyait Odette avec une toilette trop habillée pour cette partie de campagne. Car elle est si vulgaire, et surtout, la pauvre petite, elle est tellement bête. Il entendit les plaisanteries que ferait Madame Verdurin après dîner. Les plaisanteries qui, quel que fût l'ennuyeux qu'elles eussent pour cible, l'avaient toujours amusé parce qu'il voyait Odette en rire avec lui, presque en lui. Maintenant, il sentait que c'était peut-être de lui qu'on allait faire rire Odette. « Quelle gaieté fétide !» disait-il en donnant à sa bouche une expression de dégoût si forte qu'il avait lui-même la sensation musculaire de sa grimace, jusque dans son cou révulsé contre le col de sa chemise. Et comment une créature dont le visage est fait à l'image de Dieu peut-elle trouver matière à rire dans ces plaisanteries nauséabondes? Toute narine un peu délicate se détournerait avec horreur pour ne pas se laisser offusquer par de tels relents. C'est vraiment incroyable de penser qu'un être humain peut ne pas comprendre qu'en se permettant un sourire à l'égard d'un semblable qui lui a tendu loyalement la main, il se dégrade jusqu'à une fange d'où il ne sera plus possible, à la meilleure volonté du monde, de jamais le relever. J'habite à trop de milliers de mètres d'altitude au-dessus des bas-fonds où clapotent et clabaudent de tels sales papotages, pour que je puisse être éclaboussé par les plaisanteries d'une Verdurin, s'écria-t-il en relevant la tête, en redressant fièrement son corps en arrière. Dieu m'est témoin que j'ai sincèrement voulu tirer Odette de là et l'élever dans une atmosphère plus noble et plus pure. Mais la patience humaine a des bornes, et la mienne est à bout, se dit-il, comme si cette mission d'arracher Odette à une atmosphère de sarcasme datait de plus longtemps que de quelques minutes, et comme s'il ne se l'était pas donné seulement depuis qu'il pensait que ses sarcasmes l'avaient peut-être lui-même pour objet et tentait de détacher Odette de lui. Il voyait le pianiste prêt à jouer la sonate « Clair de lune » et les mines de Madame Verdurin s'effrayant du mal que la musique de Beethoven allait faire à ses nerfs. « Idiote, menteuse !» s'écria-t-il. « Et ça croit aimer l'art !» Elle dira à Odette, après lui avoir insinué adroitement quelques mots louangeurs pour Forcheville, comme elle l'avait fait si souvent pour lui, « Vous allez faire une petite place à côté de vous à monsieur de Forcheville. » Dans l'obscurité, Maquerelle, entremetteuse. Entremetteuse, c'était le nom qu'il donnait aussi à la musique qui les convierait à se taire, à rêver ensemble, à se regarder, à se prendre la main. Il trouvait du bon à la sévérité contre les arts de Platon, de Bossuet et de la vieille éducation française. En somme, la vie qu'on menait chez les Verdurin et qu'il avait appelée si souvent « la vraie vie » lui semblait la pire de toutes, et leur petit noyau le dernier des milieux. « C'est vraiment, disait-il, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte auguste ne se réfère aux Verdurin. » Au fond, comme les gens du monde, dont on peut médire, mais qui tout de même sont autre chose que ces bandes de voyous, montrent leur profonde sagesse en refusant de les connaître, d'y salir même le bout de leurs doigts. Quelle divination dans ce « Noli me tangere » du faubourg Saint-Germain. Il avait quitté depuis bien longtemps les allées du bois. Il était presque arrivé chez lui, que, pas encore dégrisé de sa douleur et de la verve d'insincérité dont les intonations menteuses, la sonorité artificielle de sa propre voix lui versaient d'instant en instant plus abondamment l'ivresse, il continuait encore à pérorer tout haut dans le silence de la nuit. Les gens du monde ont leurs défauts que personne ne reconnaît mieux que moi. Mais enfin, ce sont tout de même des gens avec qui certaines choses sont impossibles. Telle femme élégante que j'ai connue était loin d'être parfaite. Mais enfin, il y avait tout de même chez elle un fond de délicatesse, une loyauté dans les procédés qui l'aurait rendue, quoi qu'il arrivât, incapable d'une félonie, et qui suffisent à mettre des abîmes entre elle et une mégère comme la Verdurin. Verdurin, quel nom! Ah, on peut dire qu'ils sont complets, qu'ils sont beaux dans leur genre. Dieu merci, il n'était que temps de ne plus condescendre à la promiscuité avec cette infamie, avec ses ordures. Mais comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore aux Verdurin n'auraient pas suffi, même s'il les avait vraiment possédées, mais s'il n'avait pas favorisé et protégé son amour, a provoqué chez Swann cette ivresse où il s'attendrissait sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette. De même, l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui au Verdurin aurait été impuissante s'il n'avait pas invité Odette avec Forcheville et sans lui à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie. Et sans doute la voix de Swann était plus clairvoyante que lui-même quand elle se refusait à prononcer ces mots pleins de dégoût pour le milieu Verdurin et la joie d'en avoir fini avec lui, autrement que sur un ton factice et comme s'ils étaient choisis plutôt pour assouvir sa colère que pour exprimer sa pensée. Celle-ci, en effet, pendant qu'il se livrait à ses invectives, était probablement, sans qu'il s'en aperçût, occupée d'un objet tout à fait différent. Car une fois arrivé chez lui, à peine eut-il refermé la porte cochère, que brusquement il se frappa le front, et la faisant rouvrir, ressortit en s'écriant d'une voix naturelle cette fois. « Je crois que j'ai trouvé le moyen de me faire inviter demain au dîner de Chatou. » Mais le moyen devait être mauvais, car Swann ne fut pas invité. Le docteur Cottard, qui, appelé en province pour un cas grave, n'avait pas vu les Verdurin depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Chatou, dit le lendemain de ce dîner en se mettant à table chez eux. « Mais est-ce que nous ne verrons pas Monsieur Swann ce soir ? Il est bien ce qu'on appelle un ami personnel du... »« Mais j'espère bien que non !» s'écria Madame Verdurin. « Dieu nous en préserve ! Il est assommant, bête et mal élevé !» Cottard, à ces mots, manifesta en même temps son étonnement et sa soumission, comme devant une vérité contraire à tout ce qu'il avait cru jusque-là, mais d'une évidence irrésistible. Et baissant d'un air ému et peureux son nez dans son assiette, il se contenta de répondre « Ah, 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 ah !» en traversant à reculons dans sa retraite repliée en bon ordre jusqu'au fond de lui-même, le long d'une gamme descendante, tout le registre de sa voix. Il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin. Alors, ce salon qui avait réuni Swann et Odette devint un obstacle à leur rendez-vous. Elle ne lui disait plus comme au premier temps de leur amour. « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurin. » Mais nous ne pourrons pas nous voir demain soir. Il y a un souper chez les Verdurin. Ou bien, Les Verdurin devaient l'emmener à l'Opéra-Comique voir une nuit de Cléopâtre, et Swann lisait dans les yeux d'Odette cet effroi qui lui demanda de ne pas y aller, que naguère il n'aurait pu se retenir de baiser au passage sur le visage de sa maîtresse et qui maintenant l'exaspérait. Ce n'est pas de la colère, pourtant, se disait-il à lui-même, que j'éprouve en voyant l'envie qu'elle a d'aller picorer dans cette musique stercoraire. C'est du chagrin. Non pas, certes, pour moi, mais pour elle. Du chagrin de voir qu'après avoir vécu plus de 6 mois en contact quotidien avec moi, elle n'a pas su devenir assez une autre pour éliminer spontanément Victor Massé. Mais surtout, pour ne pas être arrivée à comprendre qu'il y a des soirs où un être d'une essence un peu délicate doit savoir renoncer à un plaisir quand on le lui demande. Elle devrait savoir dire « je n'irai pas ». Ne fût-ce que par intelligence, puisque c'est sur sa réponse qu'on classera une fois pour toutes sa qualité d'âme. Et s'étant persuadé à lui-même que c'était seulement en effet pour pouvoir porter un jugement plus favorable sur la valeur spirituelle d'Odette qu'il désirait que ce soir-là elle restât avec lui au lieu d'aller à l'Opéra-Comique, il lui tenait le même raisonnement, au même degré d'insincérité qu'à soi-même, et même un degré de plus. Car alors, il obéissait aussi au désir de la prendre par l'amour-propre. « Je te jure, lui disait-il quelques instants avant qu'elle partît pour le théâtre, qu'en te demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si j'étais égoïste, seraient pour que tu me refuses. Car j'ai 1000 choses à faire ce soir, et je me trouverais moi-même prise au piège et bien ennuyée si, contre toute attente, tu me répondais que tu n'iras pas. » Mes occupations, mes plaisirs ne sont pas tout. Je dois penser à toi. Il peut venir un jour où, me voyant à jamais détaché de toi, tu auras le droit de me reprocher de ne pas t'avoir averti dans les minutes décisives où je sentais que j'allais porter sur toi un de ces jugements sévères auxquels l'amour ne résiste pas longtemps. Vois-tu, une nuit de Cléopâtre, quel titre, n'est rien dans la circonstance. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment tu es cet être qui est au dernier rang de l'esprit, et même du charme, l'être méprisable qui n'est pas capable de renoncer à un plaisir. Alors, si tu es cela, comment pourrait-on t'aimer? Car tu n'es même pas une personne, une créature définie, imparfaite, mais du moins perfectible. Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre. Un poisson sans mémoire et sans réflexion, qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Comprends-tu que ta réponse, je ne te dis pas, aura pour effet que je cesserai de t'aimer immédiatement, bien entendu, mais te rendra moins séduisante à mes yeux quand je comprendrai que tu n'es pas une personne, que tu es au-dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus d'aucune. Évidemment, j'aurais mieux aimé te demander comme une chose sans importance de renoncer à une nuit de Cléopâtre, puisque tu m'obliges à me souiller les lèvres avec ce nom abject, dans l'espoir que tu irais cependant. Mais décidé à tenir un tel compte, à tirer de telles conséquences de ta réponse, j'ai trouvé le plus loyal de t'en prévenir. » Odette, depuis un moment, donnait des signes d'émotion et d'incertitude. À défaut du sens de ce discours, elle comprenait qu'il pouvait rentrer dans le genre commun des laïus et scènes de reproches ou de supplications, et dont l'habitude qu'elle avait des hommes lui permettait, sans s'attacher aux détails des mots, de conclure qu'ils ne les prononceraient pas s'ils n'étaient pas amoureux, que du moment qu'ils étaient amoureux, il était inutile de leur obéir, qu'ils ne le seraient que plus après. Aussi aurait-elle écouté Swann avec le plus grand calme si elle n'avait vu que l'heure passer et que pour peu qu'il parlât encore quelque temps, elle allait, comme elle l'eût dit avec un sourire tendre, obstiné et confus, finir par manquer l'ouverture. D'autres fois, il lui disait que ce qui plus que tout ferait qu'il cesserait de l'aimer, c'est qu'elle ne voulut pas renoncer à mentir. Même au simple point de vue de la coquetterie, lui disait-il, ne comprends-tu donc pas combien tu perds de ta séduction en t'abaissant à mentir? Par un aveu, combien de fautes tu pourrais racheter? Vraiment, tu es bien moins intelligente que je ne croyais. » Mais c'est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu'elle avait de ne pas mentir. Elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge, mais Odette n'en possédait pas. Elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait que Swann ignorât quelque chose qu'elle avait fait, de ne pas le lui dire. Ainsi, le mensonge était pour elle une expérience d'ordre particulier, et ce qui seul pouvait décider si elle devait s'en servir ou avouer la vérité, c'était une raison d'ordre particulier aussi. La chance plus ou moins grande qu'il y avait pour que Swann pût découvrir qu'elle n'avait pas dit la vérité. Physiquement, elle traversait une mauvaise phase. Elle épaississait, et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait. Toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comme elle avait été délicieuse. Et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Quand les Verdurin l'emmenaient à Saint-Germain, à Chatou, à Melun, souvent, si c'était dans la belle saison, il proposait sur place de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Madame Verdurin cherchait à apaiser les scrupules du pianiste dont la tante était restée à Paris. « Elle sera enchantée d'être débarrassée de vous pour un jour. Et comment s'inquiéterait-elle si elle vous sait avec nous? D'ailleurs, je prends tout sous mon bonnet. » Mais si elle n'y réussissait pas, M. Verdurin partait en campagne, trouvait un bureau de télégraphe ou un messager et s'informait de ceux des fidèles qui avaient quelqu'un à faire prévenir. Mais Odette le remerciait et disait qu'elle n'avait de dépêche à faire pour personne, car elle avait dit à Swann, une fois pour toutes, qu'en lui en envoyant une aux yeux de tous, elle se compromettrait. Parfois, c'était pour plusieurs jours qu'elle s'absentait. Les Verdurin l'emmenaient voir les tombeaux de Dreux, ou, à Compiègne, admirer sur les conseils du peintre des couchers de soleil en forêt, et on poussait jusqu'au château de Pierrefonds. Penser qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi, qui ai étudié l'architecture pendant 10 ans, et qui suis tout le temps supplié de mener à Beauvais ou à Saint-Loup-de-Nos des gens de la plus haute valeur, et ne le ferai que pour elle. Et qu'à la place, elle va avec les dernières des brutes s'extasier successivement devant des déjections de Louis-Philippe et devant celles de Viollet-le-Duc. Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour cela, et que même sans flair particulièrement fin, on ne choisit pas d'aller villégiaturer dans des latrines pour être plus à portée de respirer des excréments. Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, hélas, sans lui permettre d'y aller, comme par hasard de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Car enfin, l'indicateur et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens. Si on faisait savoir au public par voie d'imprimé qu'à 8 heures du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10 heures, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite, pour lequel la permission d'Odette était superflue. Et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette. Puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. En somme, elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or, justement, il sentait qu'il en avait envie et que s'il n'avait pas connu Odette, certainement il y serait allé. Il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée plus précise des travaux de restauration de Viollet-le-Duc, et par le temps qu'il faisait, il éprouvait l'impérieux désir d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Ce n'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendît le seul endroit qui le tentait aujourd'hui. Aujourd'hui. S'il y allait, malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même. Mais alors que, si elle eût retrouvé à Pierrefonds quelqu'un différent, elle lui eût dit joyeusement « Tiens, vous ici ?» et lui aurait demandé d'aller la voir à l'hôtel où elle était descendue avec les Verdurin. Au contraire, si elle l'y rencontrait, lui, Swann, elle serait froissée. Elle se dirait qu'elle était suivie. Elle l'aimerait moins. Peut-être se détournerait-elle avec colère en l'apercevant. Alors, « je n'ai plus le droit de voyager ?» lui dirait-elle au retour, tandis qu'en somme, c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. Il avait eu un moment l'idée, pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fût pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Celui-ci, à qui il avait fait part de son projet sans lui en dire le motif, ne se sentait pas de joie et s'émerveillait que Swann, pour la première fois depuis 15 ans, consentît enfin à venir voir sa propriété. Et puisqu'il ne voulait pas s'y arrêter, lui avait-il dit, lui promit du moins de faire ensemble des promenades et des excursions pendant plusieurs jours. Swann s'imaginait déjà là-bas avec Monsieur de Forestel. Même avant d'y voir Odette, même s'il ne réussissait pas à l'y voir, quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre, où, ne sachant pas l'endroit exact, à tel moment de sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenu beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir. Dans toutes les rues de la ville qui lui semblaient romanesques. Sur chaque route de la forêt, rosée par un couchant profond et tendre. Asiles innombrables et alternatifs où venait simultanément se réfugier dans l'incertaine ubiguïté de ses espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. Surtout, dirait-il à M. de Forestel, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et les Verdurin. Je viens d'apprendre qu'ils sont justement aujourd'hui à Pierrefonds. On a assez le temps de se voir à Paris. Ce ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. » Et son ami ne comprendrait pas pourquoi, une fois là-bas, il changerait 20 fois de projet, inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Compiègne, sans se décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace de Verdurin, ayant l'air de rechercher ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé, car s'il avait rencontré le petit groupe, il s'en serait écarté avec affectation, content d'avoir vu Odette et qu'elle l'eût vue. Surtout, qu'elle l'eût vue, ne se souciant pas d'elle. Mais non, elle devinerait bien que c'était pour elle qu'il était là. Et quand M. de Forestel venait le chercher pour partir, il lui disait « Hélas, non, je ne peux pas aller aujourd'hui à Pierrefonds. Odette y est justement. » Et Swann était heureux malgré tout de sentir que si seul de tous les mortels il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefonds, c'était parce qu'il était en effet pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant, et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage, de cet amour qui lui était si cher. Décidément, il valait mieux ne pas risquer de se brouiller avec elle. Patienter, attendre son retour. Il passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ceux qui lui restaient encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenu par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Justement, il entendait sonner à la porte cochère. Il lui semblait qu'on tardait à ouvrir. Il voulait éveiller le concierge, se mettait à la fenêtre pour appeler Odette si c'était elle, car malgré les recommandations qu'il était descendu faire plus de 10 fois lui-même, on était capable de lui dire qu'il n'était pas là. C'était un domestique qui rentrait. Il remarquait le vol incessant des voitures qui passaient, auxquelles il n'avait jamais fait attention autrefois. Il écoutait chacune venir au loin, s'approcher, dépasser sa porte sans s'être arrêté et porter plus loin un message qui n'était pas pour lui. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car les Verdurin ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée seule au théâtre, et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait.